Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine en RDC. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque vendredi à partir de 21h et samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons ici au studio Dou Jésus Belédou. Il est journaliste et éditeur de libertéactu.net. Bonjour Dou Jésus Belédou.
Bonjour Guy Maté, merci de l'invitation.
En ligne depuis Melbourne à Noskadi, Eric Mwamba, il est fondateur et responsable du magazine Grand Journal Intelligent. Bonjour Eric Mwamba.
Bonjour Guy Maté, merci pour l'invitation.
Je vous en prie. Et aussi en ligne depuis la ville de Louvain-la-Neuve en Belgique, Timothée Tchaoumoussoucha, il est spécialiste en politique internationale, il est coordonnateur et chercheur indépendant à Quelle Afrique, un bureau d'études géostratégiques basé en Belgique. Il est aussi médiateur en coopération, prévention et résolution des conflits internationaux. Bonjour Timothée Tchaoumoussoucha.
Merci pour l'invitation.
Merci, à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine.
Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Capi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Dou Jésus Belédou, journaliste et éditeur de libertéactu.net. En ligne depuis Melbourne en Australie, Eric Mwamba, il est fondateur et responsable du magazine Grand Journal Intelligent. Et aussi en ligne depuis la ville de Louvain-la-Neuve en Belgique, Timothée Tchaoumoussoucha, il est spécialiste en politique internationale, il est coordonnateur et chercheur indépendant à Quelle Afrique, un bureau d'études géostratégiques basé en Belgique. Il est aussi médiateur en coopération, prévention et résolution des conflits internationaux. Trois sujets au menu de cette émission, à savoir qualification des léopards à la phase finale de la Coupe du Monde 2026, retrait des éléments de l'AFC-M23 et des troupes rwandaises de certaines localités du territoire de Lubero au Nord Kivu, et enfin la récente sortie médiatique de l'ancien président de la République Joseph Kabila sur l'accord avec Félix Tshisekedi, la constitution et ce qu'il appelle la soudanisation. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de cet énième massacre des civils à Ituri par les EDF. En effet, au moins 43 personnes ont été tuées, parmi lesquelles des conducteurs des mototaxis et des agents d'une entreprise locale d'exploitation minière. C'est le nouveau bilan encore provisoire de l'attaque des EDF la nuit de mercredi à jeudi à Bafakoa dans les territoires de Mambasa. D'importants dégâts matériels sont signalés et selon des sources locales, certains corps ont été ramenés au centre commercial de Nyanya, provoquant une vive panique. Les activités économiques y sont totalement paralysées. Dou Jésus Belédou, 43 personnes assassinées en quelques heures par les EDF. Comment vous réagissez à cet énième massacre des civils dans ces territoires de Mambasa à Ituri?
Oui, mais d'abord je salue ceux qui nous suivent. C'en est des trous, s'il faudrait parler avec l'âme congolaise. En tant que Congolais, c'en est des trous. Ce massacre des trous sur des populations civiles, l'œuvre des ADF, on en a déploré et on compte aujourd'hui plus de 20 années. Et 20 années après, Guy Maté, rassurez-vous, cela n'est pas que écœuré. Et les Congolais qui sont ici et qui sont ailleurs, parce que la question de la responsabilité se remet toujours en surface. On ne peut pas, pendant plusieurs années, connaître les modus operandi du ZADEF, parce que c'est comme ça qu'ils opèrent. Ils viennent dans des villages un peu isolés, ils tuent, ils pillent, ils abattent même les, les chèvres, les bêtes, et ils répartent les modus operandi.
Et les mêmes depuis plusieurs années.
Est un secret des polichinelles. Voilà. À un moment donné, il se pose une question de responsabilité. Je suivais hier le briefing du ministre Mouyaya et du gouverneur Porossi. Lorsqu'ils parlaient du bilan, ils ont relayé un communiqué de l'armée. Mais je me dis, à un moment donné, gouverner devrait signifier prévoir, anticiper. Si nous continuons à faire des constats amers sur les massacres de ceux qui tombent chaque jour, sans pour autant prendre des mesures, des ripostes conséquentes pour rassurer les populations, parce qu'il n'y a pas qu'à Mambasa. Ce qui s'est passé, c'est à quelques kilomètres de la ville de Kisangani. Et déjà, rassurez-vous, cette insécurité est en train de se transposer. Je ne suis pas pessimiste, mais c'est ça la réalité. Il y a, on ne le dit pas assez, il y a des mouvements, des gens qui sont vers...
dans les grands nords.
Dans les grands nords. Je voulais particulièrement parler de Lubero, etc. Ces gens-là, déjà, ils vivent avec une situation d'insécurité qui ne dit pas son nom, mais avec ce que font les ADF, et il y a des craintes que cela arrive jusque vers la grande province orientale. Et donc, Guy Maté, tout ce que le gouvernement peut faire à ce stade de choses, c'est de se déployer effectivement, comme on peut, on l'a vu, vers le Bondoundou, avec cette situation de Bobondo, etc. Il faut qu'on s'intéresse à la question, mais cette fois-là, pas avec de communiqués, pas avec des aspects communicatifs, pas avec des bilans, parce que le bilan est connu. Aujourd'hui, ça devient une rhétorique qui nous semble familière plutôt, de savoir qu'on va tuer à Beni, on va tuer à Lubero, etc., etc. Les drones dont on nous parle à Kisangani, les drones qui vont souvent aux opérations dans l'est du pays, nous aimerions bien qu'il y ait une coordination. Et ça, c'est une proposition en tant que citoyen, qu'on mette un peu un terme à de fortes communications et qu'on mette un peu un terme à cette politique de subir les massacres, cette fois-là, que le gouvernement trouve des moyens et des moyens conséquents à déployer aux services d'intelligence, à l'armée et à la police, pour que finalement, qu'on mène des actions concrètes. Et pour finir, c'est terrorisme, parce qu'il s'agit là du terrorisme. J'ai vu des têtes décapitées, j'ai vu des familles, des civils, ça fait très mal. Il faut que finalement ça s'arrête. Donc le gouvernement doit améliorer sa politique des ripostes en matière de terrorisme dans cette partie du pays.
Merci. Eric Mwamba, selon la société civile de cette partie du pays, en une semaine, environ 100 personnes ont été tuées par les ADF dans ces mêmes territoires des Mambasa. Et la population aujourd'hui craint de nouvelles attaques, d'autant plus que des mouvements suspects, des présumés ADF sont signalés dans la zone. Et donc, comme vous le voyez, on a même des informations sur les mouvements de ces rebelles, et donc il y a toujours possibilité, n'est-ce pas, de prendre des dispositions pour prévenir les attaques de ces ADF, n'est-ce pas?
Oui, effectivement, Guy, comme Jésus-Christ, je salue, vient de le dire, cette énième attaque pose le problème du professionnalisme des services de défense et de sécurité, mais aussi la coopération, parce que ces ADF, souvent, ne sont pas forcément des Congolais, ce sont des terroristes qui viennent des pays voisins. Donc, ça pose le problème de coopération entre les services de renseignement des différents pays voisins, mais aussi la question sécuritaire ne concerne pas seulement les services de défense et de sécurité. C'est une question dont les solutions doivent être recherchées de manière holistique, puisqu'il y a l'amélioration des conditions de vie des populations, la construction des infrastructures. Par exemple, s'il n'y a pas d'électricité, si les quartiers ne sont pas éclairés, c'est très difficile, par exemple, pour la population d'assurer la surveillance, puisque les gens ont peur de sortir de chez eux. Je pense que c'est une question dont les solutions doivent être recherchées forcément de manière holistique, puisque si les conditions de vie des populations restent précaires, même les groupes armés trouvent encore des lits de recrutement au sein des populations. Comme Jésus Belédou l'a dit, on connaît le mode opératoire de ces adeptes, de ces terroristes depuis des années. Normalement, le gouvernement devait déjà, même si on dit que le criminel est toujours plus intelligent que le policier, mais à partir du moment où la situation perdure depuis plusieurs décennies, le gouvernement devait déjà avoir pris des précautions pour anticiper. Malheureusement, on constate qu'ils agissent toujours par réaction avec des discours, des conférences.
Merci. Merci, Timothée Tchambo. Soutcha, ces nouveaux massacres ne devraient-ils pas constituer une occasion pour se questionner, n'est-ce pas, sur l'efficacité des opérations conjointes FARDC-UPDF en cours dans cette partie du pays depuis plusieurs années?
Oui, il y a lieu de se questionner. En même temps, constater que nous sommes dans, sous cette forme, dans cette partie du territoire, nous sommes face à une guerre qui est totalement asymétrique. Si de l'autre côté du Sud-Nord, avec le M23, qui est un mouvement assez conventionnel, les IDF ainsi que les autres groupes qui vont vers le Grand Nord et qui s'étendent vers la grande province orientale opèrent, eux, de façon asymétrique. Alors, si depuis la première décennie, entre 2006 et 2016, nos États n'étaient pas très équipés en matière de guerre asymétrique, il faut vous rappeler que les Nations Unies ont formé plusieurs brigades, et même notre brigade de la police était allée en Centrafrique pour participer contre certains mouvements qui pouvaient s'apparenter à des mouvements terroristes, Balaka, anti-Balaka, les Séléka, etc. Et donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça en Afrique, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, qui font face à des groupes terroristes, le Nigeria aussi. Et que donc, à la fois, au-delà de former des brigades anti-terror, il y a lieu de former des brigades de forces aériennes qui seront au sein de l'armée nationale comme des forces numériques. Je ne cesse de parler depuis 2022 des armes de 3D, détection, déportation et destruction. C'est ce qu'on appelle communément le drone. Les avions sans pilote, et aujourd'hui, avec ces genres d'activités terroristes principalement asymétriques, il y a lieu d'acquérir des drones de reconnaissance, des drones, pas kamikazes, mais des drones qui peuvent bombarder, prendre des photos au même moment, bombarder, cartographier, repérer, et on l'a répété par les deux autres participants prédécesseurs, ici, Lou Jésus et Mwamba, que le modus operandi est connu. C'est connu, ils savent, même en Béni, parfois ils annoncent qu'ils vont venir tel jour à 16h, ils arrivent tel jour à 16h, ils exécutent, ils s'en vont. Et puis, nous serons là juste pour la comptabilité. Donc, de mon point de vue, il faudrait mettre des moyens, pas seulement dans le sport, dans le loisir, c'est aussi bien de qu'un pays, soit, on va en parler tantôt, mettre des moyens pour le sport, mais dans l'armée, dans la défense, dans le contexte d'un pays où nos frontières sont poreuses, où vous avez des groupes terroristes qui sont jusqu'au lac Tchad, qui sont en Centrafrique, qui sont au Soudan, etc. Et il y a lieu de nous équiper et il y a lieu de neutraliser ces groupes. Et j'ai vu dernièrement, et je termine par là, avec la fin de Ramadan, l'État islamique a fait une réception en brousse autour de Béni. Les photos ont fuité, sont partis par-ci, par-là, ils s'assument. Il y a lieu de les repérer. Le Burkina Faso est en train de neutraliser systématiquement tous les groupes terroristes, le Niger, le Mali, de même. Mais c'est avec des drones qui vont jusque là où ils se trouvent. Donc l'État congolais doit mettre des moyens. La guerre est asymétrique, il faut s'équiper.
Merci. Merci. On prend une petite pause en écoutant Chiquitita de Abba et on se retrouve juste après.
What's wrong? You're enchained by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way. Chiquitita, tell me the truth.
C'était Chiquitita, cette chanson d'espoir du groupe musical suédois ABBA. Chiquitita, comme pour dire à la population éplorée de l'est du pays qu'un jour cette douleur causée par toute cette tuerie cessera. On revient à côté cette semaine. La RDC participera à la phase finale de la Coupe du Monde 2026 après sa victoire d'un but à zéro face à la Jamaïque mardi 31 mars 2026 au Mexique. Victoire arrachée à la prolongation dans un match plein d'émotions. 52 ans après, la République démocratique du Congo a vécu une nuit historique marquée par une explosion des joies populaires après la qualification des Léopards face aux Reggae Boys de la Jamaïque. Cette qualification met fin à plus de 50 ans d'absence de la RDC à une phase finale de la Coupe du Monde. Pour de nombreux supporters, notamment les plus jeunes, il s'agit d'un moment historique longtemps évoqué mais jamais vécu. D'où Jésus Bélé, d'où je rappelle que vous êtes journaliste et éditeur de libertéactu.net. Vous étiez vous-même, n'est-ce pas, au Mexico, lorsque les Léopards se sont affrontés aux Reggae Boys. Et vous avez souhaité, n'est-ce pas, nous parler de cette qualification des Léopards à la phase finale de la Coupe du Monde 2026. On vous écoute.
Bah, effectivement, moi je me disais, mais est-ce que nous risquons de partir, quitter ces mondes sans pour autant voir un jour l'équipe nationale participer à cette compétition mondiale? Heureusement pour nous, 52 ans après, les Léopards reviennent pour une qualification au Mondial 2026 États-Unis, Canada, Mexique. Et donc au moins pour nous, comme pour beaucoup d'autres Congolais de mon âge, de ma génération, c'est un exploit et puis c'est un privilège de voir un jour l'équipe nationale se frotter avec les équipes nationales de ce monde. Tout d'abord, j'aimerais ici souligner un aspect très important, c'est que il fallait une bonne organisation pour que l'équipe nationale arrive à ces stades de choses. Il est vrai qu'au niveau interne, le championnat n'est pas opérationnel, notamment la Lina Foot, les Pifkin, etc. On connaît le problème, on ne va pas revenir au débat autour de ça. Le problème n'est pas nécessairement le gouvernement ou le ministère des sports. Il faut que les fédérations s'organisent, ça c'est un autre débat, on reviendra sur ça. Mais il est aussi vrai que on a bénéficié beaucoup plus de l'appui des joueurs extérieurs, des Congolais bien évidemment, qui jouent dans d'autres compétitions en dehors du pays. Et c'est grâce justement à ces jeunes-là que nous avons pu nous qualifier très difficilement.
Justement, vous qui étiez sur place à Mexico, que disent les joueurs de leur propre prestation? Qu'est-ce qu'ils disent eux-mêmes?
Non, mais les joueurs, je suis vu Béchak Elia, lui-même n'en croyait pas à ses yeux. Il dit c'était un rêve de tout le monde, notamment Chancel Bemba, lui qui attendait aller en retraite. Il n'attendait que ce moment-là pour sortir de manière honorable. Et aujourd'hui, il faudrait le dire qu'il faudrait d'abord une mention spéciale aux joueurs. Parce que c'est d'abord eux qui ont mouillé les maillots sur le terrain, c'est d'abord eux qui sont passés par toutes les émotions. Vous vous souvenez de l'humiliation ici au Stade des Martyrs avec le Sénégal, mais ils ont tenu bon, ils ont tenu la tête, ils ont éliminé les Cameroun et puis les Nigeria, et après, jusqu'à arracher la victoire à des milliers de kilomètres de la RDC avec l'équipe de Jamaïque. Sur place, l'ambiance était bon enfant, et curieusement, le Jamaïcain était pour les Congolais. Et donc, ce qui a motivé l'équipe qui est partie.
Ah bon?
Oui, il faudrait souligner aussi qu'il y avait
Les supporters jamaïcains
qui se sont joints aux Congolais, à une poignée des Congolais. Il y a eu beaucoup de déplacements aussi des Congolais de partout, hein. Il n'y a pas que à Kinshasa. Il est vrai qu'à Kinshasa, le gouvernement congolais a loué un avion, un appareil, A330, qui a pris pratiquement 300 personnes d'ici jusqu'à Guadalajara, excusez-moi, je prononce mal ce mot, au Mexique, et ces 300 personnes ont été logées dans un bel hôtel, il faudrait quand même le souligner. Moi personnellement, j'ai fait partie de la délégation intercontinentale, présidentée, bien qu'un co-débatteur ici a déploré le fait qu'on dépense beaucoup d'argent, mais c'est les sports rois, et si c'est quand même une qualification pour le mondial, ça valait la peine, ce 300 personnes, pour aller encourager les léopards.
Est-ce que les joueurs ont eu le temps de s'auto-évaluer après les matchs?
Mais justement, les joueurs, avec cette effervescence, ils n'ont pas vraiment eu le temps de s'auto-évaluer. On a vu beaucoup plus d'effervescence que des réunions sérieuses, mais il y a eu quand même un point de presse où les joueurs étaient conscients des défis qui les attendent, notamment le Portugal, qui n'est pas un petit pays, et notamment la Colombie et l'Ouzbékistan. Mais ce qu'il faut souligner, je vais terminer par là, ce qu'il faut souligner, c'est ce qui est très important, c'est que l'effervescence n'était pas seulement à Kinshasa ou ailleurs. On a vu la population de l'est du pays comme une sorte de libération. À Goma, à Bukavu, des gens qui sont pris en otage, il faudrait les dire ainsi, vous regardez plusieurs rapports des Nations Unies, qui sont pris en otage par un mouvement rebelle FCM23, qui se sont sentis libérés, et ça, j'ai apprécié le fait que les joueurs eux-mêmes ont dédié cette qualification du mondial aux Congolais de cette partie du pays. Il faudrait aussi taire une polémique inutile qui a refait surface sur les animateurs qui ne sont pas partis, plus ou moins 150 animateurs, on les connaît, hein. Enfin, quand je parle d'animateurs, tout le monde est animateur pour son équipe nationale, mais je parle des mascottes, ceux qui vraiment font des mascottes pour l'équipe nationale. Il faudrait souligner ici qu'il y a eu un avion du gouvernement qui a ramené plus de 150 personnes vers Kenya pour l'obtention des visas. Malheureusement, ces Congolais n'avaient que des passeports ordinaires. Et on les a soumis à un traitement de personnes normales qui demandent des visas avec un passeport ordinaire. Ça veut dire qu'il faudrait avoir un minimum, un peu d'argent sur les comptes et justifier ces entrées. Et un soubassement pour que le consul ou l'ambassade sache que vous pouvez vivre au Mexique et pas des risques de fuir, etc. Et malheureusement, la plupart des personnes n'avaient pas rempli ces conditions-là. Et donc, il fallait chercher un autre moyen, trouver des passeports de service. Et malheureusement, le temps a fait défaut. Mais je crois que prochainement, le gouvernement congolais, qui a d'ailleurs très bien organisé les choses avec Didier Boudimbou, le ministre des Sports, qui s'est investi, il faudrait le dire ici, il est toujours présent avec les joueurs, il est toujours présent avec le staff, il est toujours présent avec les fédérations, il est toujours présent avec les supporters, et il a dit que lors de cette qualification, dans 2 mois, il y aura effectivement une forte délégation congolaise qui ira dans cette partie du pays.
Merci, Jésus. Merci. Eric Mwamba, vous êtes fondateur et responsable du magazine Grand Journal Intelligent. Quels sont les atouts que nous avons dans cette équipe et qui doivent être préservés? Et aussi, quelles sont les faiblesses que vous avez constatées qui doivent être corrigées pour permettre, n'est-ce pas, aux Léopards de marquer positivement cette phase finale de la Coupe du Monde de 2026?
Ah oui, bon, moi j'aimerais d'abord saluer le caractère rassembleur du football qui a permis, mon collègue venait de le dire, un ouf de soulagement même à nos populations qui sont dans des territoires occupés. J'ai suivi même le ministre des Affaires étrangères du Rwanda qui a présenté ses félicitations à l'équipe des Léopards et les faire descendre que ça soulevait aussi bien partout sur l'ensemble du continent, mais aussi dans la diaspora. Il faut souligner ça. Mais comme il l'a dit, la plupart de nos joueurs qui font la fierté de l'équipe nationale viennent de la diaspora, on vient de l'étranger. Moi, j'ai regardé un peu dans la loi sur les sports, préconise les sports nationaux à trois niveaux, c'est-à-dire au niveau scolaire, au niveau amateur et professionnel. Et quand on regarde, aujourd'hui, il se pose un problème de préparation, puisque pour avoir des équipes professionnelles de qualité, il faut organiser les sports en amont. C'est-à-dire, comme on voyait à l'époque, par exemple, il y avait des écoles d'éducation physique qui formaient les encadreurs, donc qui formaient des enseignants d'éducation physique qui encadraient déjà au niveau des écoles des talents et au niveau aussi du sport amateur sur l'ensemble du pays. Il y avait des infrastructures, presque dans toutes les provinces, il y avait des infrastructures et des tournois interprovinces, etc. Ce sont ces leviers-là qui permettaient à des équipes professionnelles d'avoir des talents qui allaient compétir au niveau national et international.
Voilà, c'est quoi les atouts que vous avez observés et que nous devons préserver?
Les atouts, c'est cette capacité que le gouvernement, les sélectionneurs ont eu à piocher dans la diaspora. Donc, les joueurs très jeunes qui se débrouillent très bien. Je pense que c'est ce qu'il faut capitaliser, mais la faiblesse, hein, c'est le fait qu'ils viennent d'horizons divers. Et parfois, ils n'ont pas suffisamment de temps pour s'entraîner et harmoniser le jeu ensemble, ce qui pose des problèmes lors des matchs. Donc, moi, je pense qu'il faut renforcer l'encadrement au niveau national pour avoir aussi des talents au niveau national.
Merci Timothée Tchaoumbo-Soucha, vous êtes spécialiste en politique internationale et vous êtes coordonnateur et chercheur indépendant à Quelle Afrique, un bureau d'études géostratégiques basé en Belgique. Vous êtes aussi médiateur en coopération, prévention et résolution de conflits internationaux. Les léopards peuvent-ils, à votre avis, est-ce qu'ils peuvent s'y prendre lors de cette phase finale de cette Coupe du Monde 2026?
Pour arriver là où cette équipe est arrivée, c'est des surprises, on va de surprise en surprise. Enfin, moi-même, lorsque j'ai un petit peu de temps pour regarder le foot, même si c'est pas mon sport préféré, mais quand l'équipe nationale joue, nous qui sommes en dehors du pays, on est vraiment portés par nos couleurs, parce que ce sont nos ambassadeurs. Oui, il arrive des fois que je regarde et j'ai peur. J'ai peur parce qu'on a énormément de potentialités au sein de cette équipe, mais la concrétisation, on manque beaucoup d'occasions de transformer ces occasions en des buts et même le match ne pouvait pas aller en prolongation. Que ce soit au début jusqu'au niveau où nous sommes arrivés, si vous regardez chaque fois le jeu, bien vous dites que mais là, qu'est-ce qui vous a manqué pour transformer cela en but? Qu'est-ce qui a manqué? Donc il y a à un moment de finalisation qui nous manque et qui fait rater à notre équipe beaucoup d'occasions d'avoir énormément de points. Mais bon, nous sommes là où nous sommes arrivés. Je voulais relever le fait que je n'ai pas déploré le fait que l'on met beaucoup de moyens pour le foot. J'ai relevé seulement le fait que autant on met de moyens pour le sport, la politique du sport, autant il faut mettre des moyens pour des questions sensibles comme la prise en charge, la contingence des mouvements terroristes. Alors en ce qui concerne, pour finir, des politiques sportives dans notre pays, il n'y en a pas. Il n'y a qu'au niveau du gouvernement où le ministre traite avec l'équipe nationale. Mais pour avoir ces jeunes qu'on a, heureusement, le coach et le gouvernement congolais ont puisé dans le club en dehors du pays. Il faut savoir que dans les communes où nous vivons en Europe, moi-même j'habite dans un village ici, donc il y a toujours un échevin, conseiller communal du sport, il y a toujours des terrains de sport où on déniche des petites compétences et on va les orienter. Il y a le football amateur, mais il y a aussi professionnel. Et il y a là le club, il y a des entreprises qui viennent recruter les jeunes qui sont dans les communes. On a énormément de potentiel dans notre pays et je conclue en disant, il y a deux domaines, il y en a plusieurs, hein. Il y a deux domaines dans lesquels on ne prend que les compétences. Dans la musique, on ne prend que les meilleurs. Dans le sport, on ne prend que les meilleurs. On ne tient pas compte de son village, de la géopolitique, d'où il vient. Mais on prend les meilleurs, on en a et on peut faire beaucoup, beaucoup de bonnes choses encore.
Merci, chères auditrices, chers auditeurs. L'actualité en RDC étant dominée aussi par cette qualification de Léopard à la phase finale de la Coupe du Monde de 2026, et ce qui est un grand événement. Et nous allons donc célébrer cet événement avec Bo de Zaïko Langa Langa. On écoute donc Bo et on revient juste après.
Kokani sakili wana pongie kokani Tobesi kaka Aya
sisaki baba biso makolo basuma bangoma yoka kite
Oh Richard Kabara
Valeli benda bango
Oh Asif Lengelo
Bangoma yoka kite aleka bango
Oh Le Club
Na 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 mame Nana kosi atembe somo e
Bae pisa ki bako piso bako Longwa suma bako mayoka kite Bon Misi, Valeli, Venda bako Bon
Michel Bukasa
Bako mayoka kite Aletanga bako Bon
Yokango suma Yokango suma e Yokango suma
Ewolo Bae pisa ki bako piso bako Longwa suma bako mayoka kite Bon
Bienveni kindongo
Misi, Valeli, Venda bako
Mazaiko, yeah, yeah, yeah.
Viva!
Oh, I could tell him, I've been a tenant,
yeah.
You damatingo,
Valeli,
Vendabo,
oh.
Sasha.
Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque vendredi à partir de 21h et samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ces magazines, nous avons fait un commentaire au sujet de cet énième massacre des civils à Ituri par les EDF. Bilan provisoire, 43 civils tués. Nous avons également analysé la qualification des Léopards à la phase finale de la Coupe du Monde 2026. Participe à cette émission, d'où Jésus Belledou, il est journaliste et éditeur de libertéactu.net. En ligne depuis Melbourne en Australie, Eric Mwamba, il est fondateur et responsable du magazine Grand Journal Intelligent. Et aussi en ligne depuis la ville de Louvain-la-Neuve en Belgique, Timothée Tchaoumbo-Soucha, il est spécialiste en politique internationale, il est coordonnateur et chercheur indépendant à Quelle Afrique, un bureau d'études géostratégiques basé en Belgique. Il est aussi médiateur en coopération, prévention et résolution des conflits internationaux. Au Nord Kivu, les troupes de la SM23 soutenues par les Rwandais se sont retirées de Katondi. Cette localité abritait leur position la plus avancée située à environ 18 km de Lubero au centre, chef-lieu du territoire. Selon des sources locales et sécuritaires, les rebelles seraient partis avec l'ensemble de leur matériel. Entre-temps, la rébellion a réoccupé d'autres villages. Le retrait de la SM23 de Katondi est observé depuis mercredi. Occupée depuis plus d'une année, cette localité constituait la dernière position avancée de la rébellion vers Lubero centre après la zone tampon contrôlée par l'armée ougandaise UPDF. Selon des sources locales, les combattants de la SM23 ont quitté Katondi sans affrontement, emportant tout leur matériel militaire. Dans le même temps, la SM23 a réoccupé Kalonge et Lubango à une trentaine de kilomètres de Lubero centre après y avoir délogé par des combats les groupes Wazalendo. Ces villages avaient pourtant été abandonnés sans combat il y a une dizaine de jours. Eric Mwamba, vous avez souhaité nous parler du retrait des éléments de la SM23 de Katondi dans les Lubero au Nord Kivu. On vous écoute.
Oui, la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo est marquée ces derniers jours par l'annonce du retrait des troupes de la CM23 ainsi que des troupes rwandaises de certaines localités du Nord Kivu. C'est un développement qui peut à première vue être perçu à certaines personnes comme un signal positif, mais lorsqu'on observe de plus près la dynamique du conflit dans cette région, une question essentielle se pose. Assistons-nous à un véritable désengagement ou à une simple reconfiguration stratégique sur le terrain? Parce que l'histoire récente du M23 montre que ces mouvements de retrait sont souvent temporaires, parfois même dictés par des pressions internationales ou des impératifs tactiques. Il ne s'agit pas, à mon avis, toujours d'un abandon durable des positions occupées. Par ailleurs, la question de la présence des troupes rwandaises reste au cœur des tensions diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Ce retrait partiel pourrait-il traduire une volonté d'apaisement sous pression internationale ou s'inscrit-il dans une stratégie plus large de repositionnement? Il faut également s'interroger sur les conséquences immédiates pour les populations locales. Un retrait militaire ne suffit pas nécessairement un retour automatique à la sécurité, ni la fin du chaos humanitaire. Au contraire, il crée souvent un vide sécuritaire rapidement exploité par d'autres groupes incontrôlés. Dès lors, la véritable question est celle-ci. Quelles garanties existent aujourd'hui pour assurer une stabilité durable dans ces zones? Sans mécanisme de contrôle crédible, sans engagement clair des parties prenantes, et sans renforcement de l'autorité de l'État congolais, ce type de retrait risque de rester un simple épisode dans ce cycle de violence qui se répète depuis plusieurs années. D'ailleurs, selon mon observation, l'armée congolaise qui a du mal à renverser le rapport des forces sur le terrain, d'où pour moi, je pense que la RDC devrait avoir le courage d'élever l'option de se considérer comme un pays sans armée et chercher à nouer des accords de défense. Je l'ai dit pourquoi, puisque je considère que les États-Unis n'ont pas encore véritablement pris la décision de considérer la RDC comme un partenaire stratégique. D'où il faudrait que la RDC engage des discussions pour un véritable accord de défense.
Merci Timothy Kambo Soucha. Vous avez suivi Eric Mwamba qui s'est posé la question de savoir si ce retrait est un véritable désengagement ou c'est plutôt un repositionnement stratégique. À votre avis, quels pourraient être les dessous des cartes de ce retrait?
Le dessous des cartes de ce retrait n'est autre qu'une diversion afin de faire une situation de pourriture. De faire le temps passer afin que l'on arrive à un moment où les États-Unis ne seront plus étant occupés dans les différents dossiers à travers le monde, le dossier de l'Ukraine, le dossier du Moyen-Orient, et que donc le Proche-Orient, je veux dire, et que donc de cette façon-là, l'État congolais, avec la question des accords entre la RDC et Washington, sera un peu relégué au second rang, parce que visiblement, pour Kinshasa, il n'a plus d'espoir, il n'y a pas de stratégie de défense, il n'y a pas de stratégie de la reconquête de ce territoire. Quand vous lisez le président de la République, et même dans sa dernière déclaration devant les chefs coutumiers, dans sa tournée au Bandundu, le président Tshisekedi a clairement dit aux chefs coutumiers que nous attendons les États-Unis pour organiser notre armée, que on attend tous les États-Unis, y compris les finances, les entreprises, les soucis qui viendront avec les moyens qu'il faut. Donc vous comprenez que l'État congolais est dans une situation veilleuse où on espère tout des États-Unis et effectivement l'M23 est en train aussi de profiter de la situation pour attendre les différents changements des cartes du rapport de force au sein de l'administration, en fait, de la classe politique américaine, pour que peut-être que les démocrates reviennent aux affaires, et on sait, les démocrates sont toujours derrière le Rwanda et puis finalement le HCM23. C'est une situation où j'ai toujours décrié ici l'absence des politiques de défense, sûreté, sécurité de l'État. On ne voit pas clairement ce que la politique de défense. Vous savez que nous sommes dans un monde où il y a les renouveaux de la géopolitique, la reconfiguration des cartes géopolitiques dans le monde, et que chaque État doit définir ses priorités, observer, cerner ses menaces, élaborer ses besoins, et pour finalement élaborer des stratégies de défense, et même développer l'académie, l'industrie de la guerre. La question, c'est que ce retrait-là ne va rien changer. Le M23 se retire à gauche, mais occupe d'autres localités à droite. C'est des stratégies de M23 depuis toujours. Donc, pour moi, ça ne m'a pas étonné. C'est la diversion et l'État congolais. J'ai interrogé le professeur Bioya Personam sur des questions de jeu de puissance sur la région des Grands Lacs. Mais il y a, oui, une diplomatie, mais en même temps, on peut régler cette question de façon politique, mais aussi sur le plan militaire.
Merci. Merci, Dou Jésus Bélédou. Qu'a-t-on dit une localité qui constituait la dernière position avancée de la rébellion vers Lubero Centre, après la zone tampon contrôlée par l'armée ougandaise, UPDF? Se retirer de cette localité signifierait quoi à votre avis? Que la rébellion renonce à ses ambitions d'avancer vers certaines zones stratégiques telles que Kisangani?
Pas du tout, mes co-débatteurs l'ont si bien dit, avec des mots un peu plus convaincants et plus clairs sur ce qui se passe dans cette partie du pays. Écoutez, il ne faudrait pas qu'on se leurre en tant que Congolais. Il ne faut pas qu'on se leurre. Vous avez suivi l'évolution de l'actualité, Kagame qui a parlé aujourd'hui sur Jeune Afrique. Il est clair comme l'eau des roches, quand il vous parle de ces mesures défensives, il vous dit que non, le Rwanda ne compte pas quitter cette partie du pays de l'est de la RDC, d'autant plus qu'il a le soutien de certains Congolais. Il a parlé lui-même de Joseph Kabila, ce n'est pas Bélédou qui le dit. Il a expressis verbis dit ceci, permettez que je corrobore ce qu'il a dit. Il dit, mais le M23 et l'AFC, c'est Joseph Kabila, ce que Kagame dit. Est-ce une politique de confusion? Est-ce qu'il veut... Mais effectivement, il a dit. Mais lorsque nous voyons l'évolution des choses, chers confrères, mais tout se corrobore. Tout se corrobore. En passant par souvent les Congos, jusqu'à parler de la soudanisation de la RDC, c'est Kabila qui l'a dit. Il dit non, ne parlez pas de la balkanisation, il faut parler de la soudanisation.
Voilà, on va en parler.
Oui, je reviens. Non, je reviens. Mais je reviens à la réalité.
Donc vous pensez en fait, que c'était pour appuyer. L'effet de retirer ne signifie pas que.
C'était pour appuyer justement ce qu'ont dit mes prédécesseurs. Mmh. C'est pour appuyer ce qu'ils ont dit. Non, c'est de la farce. En réalité, c'est pas un retrait. Ils se retirent pour aller où? En fait, ce qui se passe quand vous vous interrogez, on vous dit non, les drones à partir, parce qu'il y aurait une base à partir de l'aéroport de Kisangani, et c'est une position stratégique, ils bombardent les rebelles de ce côté-là de Lubero, c'est ainsi qu'ils quittent cette partie du pays. Ils ont même tenté de bombarder par deux ou trois fois cette base à partir de Kisangani, de l'armée régulière, ils n'ont pas pu, voilà pourquoi ils quittent, voyez-vous, et ils vont où? Ils y vont où? C'est ça le problème. Et donc, ils n'ont pas l'intention. Kagame et ses troupes, parce que l'M23, l'AFC, l'M23, c'est l'ambassadrice du Rwanda à partir de New York qui nous a renseigné que tout est piloté à partir du Rwanda. Et Kagame, il vous dit clairement que je ne lèverai pas mes mesures défensives. Et donc, il faudrait dire ici que ce qui se passe dans cette partie du pays, il ne faudrait pas compter sur une solution miracle ou bien un retrait imaginaire de Paul Kagame parce qu'il a encore ses intérêts. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, un co-débatteur ici, je crois que c'est M. Mwamba, Eric Mwamba qui parlait de... Il faut que l'État se déclare un État qui n'a pas d'armée. Mais non, quand vous lisez les grands auteurs qui ont parlé du pouvoir, en passant par Tobbs qui a parlé du Léviathan qui symbolise la force, tous les grands auteurs, Charles de Gaulle et Mao Zedong qui disaient le pouvoir est au bout du fusil. Et en relation internationale, il n'y a que les rapports de force. Et les rapports de force, ça ne se fait pas par la diplomatie. Et même la diplomatie, l'armée, c'est le prolongement de la diplomatie. Si l'armée n'existait pas, et nous ne sommes pas appelés à un État, nous sommes appelés à disparaître. Le monde d'aujourd'hui s'est redéfini. Je crois que quelqu'un l'a dit ici, la géopolitique s'est redéfinie. Aujourd'hui, nous revenons à l'époque des empires. Et vous n'êtes pas fort, on vous engloutit. C'est ce qui se passe. Donald Trump a capturé un président de la République. C'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Mais une déclaration du président de la République pour dire, maintenant nous avons de l'aide, c'était avec les chefs coutumiers, maintenant nous avons de l'aide des États-Unis, ils vont nous aider à réorganiser l'armée, etc. Actuellement, ça peut s'apparenter comme un aveu d'échec pour ceux qui lorgnent toujours les richesses de la partie Est du pays. Voilà pourquoi Kagame aujourd'hui prie ses prévaloir, dire clairement que si je dois ajouter de 5 km, 10, 20 ou 30 km mes mesures défensives pour protéger le Rwanda, je le ferai. Et donc il s'est dit en face, je n'ai pas d'armée, ces gens-là attendent les États-Unis alors que les États-Unis sont préoccupés à résoudre les problèmes du monde. Et donc pour terminer par là, je dirais, je ne suis pas défaitiste, non. Mais ce que je dis, c'est que ce pays n'a pas commencé aujourd'hui. Ce pays a résisté. Lumumba le disait, le pays ne sera pas balkanisé et les autres l'ont dit. Ce pays a la possibilité, comme on l'avait vu sous Mzé Laurent Désiré Kabila, tout en ayant une armée, à nouer des partenariats militaires avec d'autres armées sœurs. Ça existe, même en relation internationale, pour débouter justement l'ennemi. Et aujourd'hui, Tshisekedi, plutôt que le régime de Kinshasa, pas Tshisekedi personnellement, le régime de Kinshasa, plutôt que d'être attentiste, peut anticiper, avoir des initiatives qui vont dans le sens de récupérer d'abord en nouant ce genre de partenariats militaires qui existent d'ailleurs, ou plutôt que de croiser les bras et donner l'impression que nous attendons une solution miracle qui viendra de Donald Trump, alors qu'on sait très bien qu'à un moment donné, Trump est bipolaire.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Shao Yako, une chanson interprétée par Biliabel et Taboulay, et on se retrouve juste après.
Your love is
C'était Chaouriako, cette célèbre chanson interprétée ici par Miliabel Taboulé dans l'orchestre Afriza International. Je rappelle que nous avons dans cette émission Dou Jésus Belédou, il est journaliste et éditeur de libertéactu.net. En ligne depuis Melbourne, en Australie, Eric Mwamba, il est fondateur et responsable du magazine Grand Journal Intelligent. Et aussi en ligne depuis la ville de Louvain-la-Neuve, en Belgique, Timothée Tchaoumbo-Soutcha, il est spécialiste en politique internationale, il est coordonnateur et chercheur indépendant à Quelle Afrique, un bureau d'études géostratégiques basé en Belgique. Il est aussi médiateur en coopération, prévention et résolution des conflits internationaux. L'ancien président de la République démocratique du Congo sort de son silence. Et dans un entretien accordé aux médias belges et à la Libre Belgique, Joseph Kabila a livré sa lecture de la crise sécuritaire qui ravage l'est du pays. À 25 ans de l'accord de Sun City qui avait mis fin à la dernière grande guerre africaine, l'ancien chef de l'État dénonce ce qu'il appelle une dictature qui s'installe et des ventes en guerre au pouvoir. Il affirme que si la voie du dialogue n'est pas prise, la RDC risque de connaître le même sort que le Soudan en parlant de la soudanisation. Timothée Tchaoumbo-Soutcha, vous avez souhaité justement nous parler de cette récente sortie médiatique de l'ancien président Joseph Kabila. On vous écoute.
Merci, cher Guy, mais vous me permettrez que je commence par la récente sortie médiatique du président rwandais Paul Kagame à Jeune Afrique, parce qu'il y a une corrélation avec la sortie médiatique du président Joseph Kabila.
Allez-y.
Parce que le président... Merci, parce que le président Paul Kagame a dit tout simplement qu'il ne peut pas lever ses mesures de défense parce que rien n'est fait pour contenir les menaces qu'il y a là-bas. Et donc, comment voulez-vous que je puisse lever les mesures de défense alors que de l'autre côté, cela ne se fait pas. Donc, je vais maintenir les moyens de défense et au besoin, aller neutraliser ces éléments. Il parlait des ex-FDLR en République démocratique du Congo. J'ai deux lectures très rapidement à faire sur cette sortie médiatique. D'abord, de la chute d'Ouvira à cette déclaration, je constate tout simplement que les accords de Washington sont tombés caducs et que l'État congolais doit s'assumer. Il n'y a pas que la diplomatie, il n'y a pas que l'aspect politique. L'État congolais doit redéfinir ses stratégies militaires afin de reconquérir par la force les territoires sous contrôle de RCM23. Deuxième lecture que je fais très très rapidement, c'est que la déclaration de Paul Kagame disant que tout le monde qui voudrait changer les choses dans son pays, au Congo, peut passer par moi, peut passer par ici, signifie tout simplement un aveu par le président Paul Kagame que le Rwanda constitue la base arrière de ce mouvement politico-militaire AFC-M23. Parce que, pourquoi je leur interdirais le chemin de passer par ici? Lorsque vous êtes parent et que vous dites à votre enfant, ben, passez par ici, voici le chemin que je vous donne. Ça veut dire, en d'autres termes, je vous donne le moyen, les atouts, je mets l'environnement pour que vous puissiez réussir à l'école. Je vous donne le matériel qu'il faut. Donc, le président Paul Kagame, et j'ai interrogé depuis 48 heures le professeur Philippe Binoya, je l'ai dit tantôt, paix à son âme, sur les rapports de force de la région des Grands Lacs. Un mouvement politico-militaire ne peut pas se tenir s'il n'a pas de base arrière et il est ostensible, clair comme de l'eau claire dans un verre clair, que le Rwanda vient de passer une fois de plus aux aveux au-delà des rapports qui sont aussi ostensibles qu'il incrimine dans la déstabilisation du Kivu. Je reviens immédiatement dans les déclarations récentes du président, l'ancien président Joseph Kabila, à la fois à la Libre Belgique, mais aussi New York Times, je crois, où il a, j'ai résumé, d'abord l'illégitimité du président Félix Tshisekedi. Deux questions se posent. Le président Joseph Kabila aurait été beaucoup plus clair. Il doit s'expliquer davantage. Est-ce que Félix Tshisekedi est illégitime du fait d'avoir organisé des élections chaotiques de 2018? C'est pas lui qui les a organisées, mais il a été bénéficiaire de ces chaos. Ou illégitime du fait des élections, de mon point de vue, qui n'ont même pas existé en 2023, du fait qu'on a violé systématiquement la loi électorale qui préconise un jour de vote, mais au Congo, nous sommes allés d'un jour à 7 ou 8 jours de vote. Si de cette illégitimité dont il s'agit, alors oui, effectivement, les institutions actuelles en République démocratique du Congo sont illégitimes, mais elles sont légales parce qu'elles sont là, on ne les remplace pas par d'autres. Mais s'il parle de l'illégitimité du président Félix Tshisekedi par le fait des accords secrets qu'il aurait avec Félix Tshisekedi, là encore, j'ai deux questions. Il s'agit des accords de gouvernance, parce que Félix Tshisekedi a gagné, entre guillemets, les élections 2018, sans gagner la majorité parlementaire, auquel cas Félix Tshisekedi avait droit de renverser leur alliance, parce qu'on a vu qu'il y a eu beaucoup de bâtons dans les roues. Rappelez-vous, il fait des nominations, il prend des ordonnances, les ministres, les ADG, les PDG, qui sont de l'obédience de son allié, de ses coalisés FCC, ne l'exécutaient pas. On sabotait un chef d'État qui était quasiment comme un chef d'État en carton, je me permets le terme. Et donc, Félix Tshisekedi avait le droit de renverser la table. Mais s'il s'agit des accords secrets, du fait qu'il n'y a pas eu élection en 2018, que Joseph Kabila, comme le prétend ses proches, que Félix Tshisekedi n'était pas élu, c'était Martin Fayulu qui l'était, et que donc lui, Kabila, a jugé bon, il serait protégé par Félix Tshisekedi, ma deuxième lecture est, l'ancien président Joseph Kabila est passé aux aveux, et il doit être accusé de haute trahison, d'avoir violé systématiquement la Constitution, parce qu'il ne peut pas disposer des Congolais comme des meubles dont il peut bouger dans son salon en tout moment. Celui qui installe qu'il veut, même s'il y a élection, il va aller négocier avec quelqu'un d'autre un accord, qu'il garde un exemplaire, et personne n'en a pas. Il n'y a que lui qui a cet exemplaire-là. Joseph Kabila doit comprendre que les choses ont changé.
Et s'il faut revenir à ces propos au sujet de la... Parce qu'on n'a pas tout le temps, hein, si on peut évoquer cette question qu'il a... En fait, il dit que si la voie du dialogue n'est pas prise, la RDC risque de connaître les mêmes sorts que le Soudan en utilisant les termes soudanisation. Comment vous comprenez cela?
Aller sur mes plateformes de quelle Afrique j'en utilise. Il s'agit même du néologisme. J'ai même vu avec beaucoup de regret Patrick Mouyaya qui interdit aux Congolais de réfléchir très audiblement sur cette question en utilisant cela. Nous sommes dans un contexte où la République démocratique du Congo ressemble dans le contexte actuel fort bien au contexte du Soudan, lorsque le chef de la rébellion à l'époque, le docteur John Garang, s'était allié avec... Après des dialogues, s'est allié et est devenu vice-président du Soudan. Son vice-président de la rébellion, cette fois-là, Riek Machar, Salva Kiir et le docteur Riek Machar, n'ont pas vu de cette oreille-là et donc, du coup, ils ont préféré poursuivre la guerre et obtenir le pays. Alors, ressemblant...
Mais que cela sorte de la bouche de l'ancien président de la République, ça ne vous inquiète pas?
Mais ça m'inquiète. Ça m'inquiète et pourquoi? Première question. Joseph Kabila a combattu le M23 pendant autant d'années, depuis des accords, 2009, etc. Il l'est même qualifié de... Il y a eu même des sanctions au niveau des Nations Unies. Il n'y a rien qui a changé pour que l'ancien président se retrouve dans le territoire sous contrôle de l'AC-M23 et il n'est pas inquiété. Le seul contexte qui a changé, c'est qu'il n'est plus au pouvoir. La seule question qui va intérêt d'être posée et dont il doit répondre, et chacun peut répondre, comment un ancien président qui a combattu un mouvement politico-militaire, jugé à un moment comme un mouvement terroriste, il a emprisonné et même neutralisé certains d'entre eux, d'autres sont en exil, jugés à la Cour pénale internationale, comment cet ancien président peut se retrouver dans ce territoire-là sans être inquiété, merci, alors que rien n'a changé. La seule chose, le seul contexte qui a changé, c'est qu'il a quitté le pouvoir. La réponse est simple, c'est son propre mouvement. C'est cela, la première réponse. Et donc, vous comprenez que le président
Kabila
se trouve, il s'est compromis, s'il terminait ses études, qu'il soit rentré à Kinshasa pour aller à Kinshasa chez lui, ou par Lubumbashi, il n'y aurait pas de soupçons, beaucoup de soupçons sur lui. Et le fait qu'il soit rentré par Goma, via Kigali, la question même Laurent Désiré Kabila peut se poser de là où il est, comment mon fils, entre guillemets, peut-il aller par nos agresseurs et être protégé par les mouvements qui nous massacrent. Je termine en une seconde par la Constitution. Il est vrai que le président Tshisekedi, dans son projet de société, disait, l'IDPS voulait changer la Constitution. Ils ont droit et ils ont le pouvoir. Mais le président Tshisekedi n'a plus raison et il est temps de changer la Constitution à la fin de son deuxième et dernier mandat. C'est celui qui viendra après qui pourra le faire, mais dans un contexte et un temps non suspect.
Merci Eric Mwamba. Les sorties médiatiques d'un homme d'État qui avait, n'est-ce pas, l'habitude de rester réservé, de parler peu, cette stratégie qui consiste, n'est-ce pas, à se prononcer souvent sur certaines questions de la vie nationale depuis un certain moment, est-ce c'est une stratégie payante ou c'est plutôt contre-productif?
Bon, il y a un détail très important qu'on semble souvent ignorer quand on évoque la question sur les sorties médiatiques de l'ancien président Joseph Kabila. C'est la loi sur les anciens, la protection des anciens présidents de la République élus à RDC. L'esprit de cette loi était de garantir les conditions des sorties honorables, la protection et les moyens diplomatiques, sécuritaires, substantiel nécessaire et en contrepartie obtenir le droit de réserve de la part de l'ancien chef de l'État. Alors, l'activisme de Joseph Kabila montre tout simplement qu'il y a eu des ratés dans l'expérience de la première alternance au pouvoir en République démocratique du Congo. Parce que quand on regarde la manière dont le pouvoir s'est transmis en 2018-2019, le président, l'ancien président, en dépit de l'existence de cette loi, a gardé la main sur les leviers importants du pouvoir, le Parlement. À l'époque, il y avait même certains experts qui disaient que c'est lui qui était le véritable chef de l'armée, c'est-à-dire il continuait à donner des ordres à l'armée, il avait la main mise sur la justice, etc. Ça, c'était le premier faux pas dans l'alternance. Puisque quand on regarde aussi, c'est une première en Afrique. L'expérience d'autres pays, par exemple, on voit Léopold Sédar Senghor qui laisse le pouvoir, qui quitte le pays. Nelson Mandela, quand il a laissé le pouvoir, il était plus à l'extérieur de l'Afrique du Sud, puisqu'il savait que sa personnalité forte risquait de porter ombrage à celui qui l'avait précédé. C'est le cas avec Abdoulaye Wade. Même Obasanjo, qu'on voit se balader en République démocratique du Congo. Donc, moi, je pense que c'est vraiment un raté dans l'expérience de l'alternance, puisque le président Joseph Kabila, pour répondre à votre question, ses sorties sont tout simplement contre-productives.
Merci. Merci, Dou Jésus Belédou. Nous allons finir cette émission avec vous. Quelle lecture vous faites, justement, de toutes ces sorties médiatiques de l'ancien président Joseph Kabila?
Non, mais moi, je commencerai par la soudanisation qui fait très mal aux Congolais, ces termes-là. Effectivement, Joseph Kabila a dit, mais beaucoup parlent de la balkanisation. Moi, je n'aimerais pas parler de la balkanisation. Je veux parler de la soudanisation. Joseph Kabila a tout faux en évoquant ce terme de soudanisation, étant donné que nous savons tous que au Soudan, ce qui s'est passé, c'est pratiquement une guerre identitaire, une guerre civile entre le nordiste et le sudiste. Ce qui est sûr, c'est que le sud du Soudan, il y a dans le nord du Soudan, il faut commencer par là, la population est majoritairement arabe, ce sont des musulmans, des nubiens, ce qui est différent du sud, où on a naturellement les Ndinka, les Nuer, etc. Et donc, tout est parti de là. Les sudistes pensaient que les nordistes musulmans les rejetaient simplement parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils sont animistes, tandis que de l'autre côté, les nordistes disaient que les sudistes ne sont pas musulmans, et tout est parti de là. Et ça a créé cette crise, la guerre civile, eh bien, Et finalement, le Soudan, on a connu les sorts qu'on connaît aujourd'hui. Mais la RDC, c'est tout différent. Ce qui se passe en RDC, ça n'a rien à voir avec la soudanisation. En fait, les mots sont plus forts que Kabila. Les sorties médiatiques de Joseph Kabila, malheureusement, l'ont trahi plusieurs fois. Lorsque, par exemple, il parlait, lorsque Goma et Bukavu tombaient et que la RDC faisait recours à l'armée sud-africaine, Kabila est sorti pour demander à l'armée sud-africaine de ne pas à soutenir la CM23. À un moment donné, il dit...
Il n'a pas soutenu
les FARDC, excusez-moi. Il est sorti pour dire que la CM23 porte les aspirations des Congolais. Plus tard, on apprendra que l'AFCM-23, on apprend de la bouche d'ailleurs de l'ambassadrice rwandaise à Washington, que l'AFCM-23, les opérations sont pilotées à partir du Rwanda. Et aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle, c'est lui-même, Paul Kagame, qui s'assume, comme pour dire, cette rébellion-là a connu la bénédiction de Joseph Kabila. Et donc, tout ça, ce sont deux choses qui nous poussent à dire que le mal aujourd'hui en RDC ne nécessite pas nécessairement un dialogue. Et donc pour terminer par là, cher Guy, je dirais, le plus important aujourd'hui, c'est que au-delà des clivages, la constitution, au-delà de deals qu'il y avait, au-delà des conflits qu'il y a aujourd'hui, rien ne peut justifier à ce qu'un compatriote congolais aille nouer des partenariats avec un autre État étranger pour déstabiliser les institutions. Parce que ceux qui sont martyrisés aujourd'hui dans la partie est du pays, ceux qui sont assassinés, ceux qui sont violés, ce sont des Congolais. Ce sont des frères, des sœurs congolais. Et donc à ce stade de choses, Joseph Kabila a fait des sorties ratées et je ne sais pas comment il peut se rattraper vis-à-vis des millions de Congolais qui suivent de très près ce qui se passe dans la partie est du pays. Cela ne voudrait pas dire que Tshisekedi est saint. Cela ne voudrait pas dire que le régime de Kinshasa est irréprochable. Autant que le régime de Kinshasa est irréprochable, rien ne peut justifier à ce qu'un ancien président de la République devienne une sorte du patin, excusez-moi l'expression, d'un pays agresseur.
Merci, on finit cette émission par là. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Timothée Tchaombo Soutcha, Eric Mwamba et Dou Jésus Beledou. Merci aussi à Pierre Diassino qui était à la technique, à la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. Nous allons nous séparer avec Les Langai Namosika de Momene Momikengo, chanson sortie en 1985 dans l'orchestre Ok Jazz. On se retrouve le samedi prochain.
Mwana moto boko kana toera nini mokili ya Nzambe.